Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 10, chapitre 13.
Les nonnes de Nimptche. Sentiment de Luther. Fin du couvent. Le mariage de Luther. Bonheur domestique. Dans le monastère de Nimptche, près de Grima en Saxe, se trouvaient en 1525 neuf nonnes assidues à lire la parole de Dieu et qui avaient reconnu le contraste qui se trouve entre la vie chrétienne et la vie du cloître. C'était Madeleine Staupitz, Elisa de Kanitz, Ave Grosn, Ave et Marguerite Schoenfeld, Lanetta de Gollis, Marguerite et Catherine Zescao et Catherine de Bora. Le premier mouvement de ces jeunes filles, après s'être détachées des superstitions du monastère, fut d'écrire à leurs parents. « Le salut de notre âme, leur dit-elle, ne nous permet pas de continuer plus longtemps à vivre dans un cloître. » Les parents, craignant l'embarras qu'une pareille résolution devait leur donner, repoussèrent avec dureté la prière de leurs filles. Les pauvres religieuses furent consternées. Comment abandonner le monastère ? Leur timidité s'effrayait d'une action aussi désespérée. À la fin, l'horreur que leur causait le culte de la papauté l'emporta, et elles se promirent de ne point se quitter, mais de se rendre toutes ensemble en un lieu honorable, avec ordre et avec décence. Deux respectables et pieux citoyens de Torgau, Leonard Kopp et Wolf Tomitz, leur offrirent leur appui.
Elles l'acceptèrent comme venant de Dieu même et sortirent du couvent de Nimptche sans que personne s'y opposât, comme si la main du Seigneur leur en eût ouvert les portes. Coppé et Tomitz les reçurent dans leur char, et le 7 avril 1523, les neuf religieuses, étonnées elles-mêmes de leur hardiesse, s'arrêtèrent avec émotion devant la porte de l'ancien couvent des Augustins où demeurait Luther. « Ce n'est pas moi qui l'ai fait, » dit Luther en les recevant, « mais plût à Dieu que je puisse sauver ainsi toutes les consciences captives et vider tous les cloîtres. La brèche est faite. » Plusieurs personnes offrirent au docteur de recevoir les religieuses dans leur maison et Catherine de Bora fut accueillie dans la maison du bourgmestre de Wittenberg. Si Luther pensait alors devoir se préparer à quelque événement solennel, c'était à monter à l'échafaud, et non à s'avancer vers l'autel. Bien des mois plus tard, il répondait encore à ceux qui lui parlaient de mariage, « Dieu peut changer mon cœur comme il lui plaît, mais, maintenant du moins, je ne pense en aucune manière à prendre femme. Non que je ne sente aucun attrait pour cet état, je ne suis ni de bois, ni de pierre, mais j'attends chaque jour la mort et le supplice dû à un hérétique. » Cependant, tout était en progrès dans l'Église. À la vie monastique, invention des hommes, succédaient partout les habitudes de la vie domestique, instituée de Dieu. Le dimanche 9 octobre 1524, Luther s'étant levé comme à l'ordinaire, mit de côté son froc de moine augustin, se revêtit d'un habit de prêtre séculier, puis parut ainsi dans le temple, où ce changement excita une vive joie. La chrétienté rajeunie saluait avec transport tout ce qui lui annonçait que les choses vieilles étaient passées. Peu après, le dernier moine quitta le couvent, mais Luther y resta. Ses pas se faisaient seuls entendre dans les longs corridors, et seul il s'asseyait silencieusement au réfectoire qui retentissait naguère du babil des moines. Solitude éloquente, et qui attestait les triomphes de la parole de Dieu. Le couvent avait cessé d'exister. Luther envoya, vers la fin de décembre de l'an 1524, les clés du monastère à l'électeur, en lui annonçant qu'il verrait où il plairait à Dieu de le nourrir. L'électeur donna le couvent à l'université, et invita Luther à continuer à l'habiter. La demeure des moines devait bientôt devenir le sanctuaire d'une famille chrétienne. Luther, dont le cœur était si bien fait pour goûter les douceurs de la vie domestique, honorait et aimait l'état du mariage. Il est même probable qu'il avait quelque penchant pour Catherine de Bora. Longtemps ses scrupules et la pensée des calomnies auxquelles donnerait lieu une telle démarche l'avaient empêché de penser à elle. Il avait offert la pauvre Catherine d'abord à Baumgartner de Nuremberg, puis au docteur Glatz d'Orlamund. Mais quand il vit Baumgartner refuser Catherine et Glatz être refusé par elle, il se demanda plus sérieusement s'il ne devait point songer lui-même à cette union. Son vieux père, qu'il avait vu avec tant de peine embrasser l'état ecclésiastique, le sollicitait d'entrer dans l'état conjugal. Mais une idée surtout se représentait chaque jour à la conscience de Luther avec une nouvelle énergie. Le mariage est une institution de Dieu. Le célibat est une institution des hommes. Il avait horreur de tout ce qui venait de Rome. « Je veux, disait-il à ses amis, ne rien conserver de ma vie papistique. » Jour et nuit, il priait, conjurait le Seigneur de le tirer de son incertitude. Enfin, une pensée vint rompre les derniers liens qui le retenaient encore. À tous les motifs de convenance et d'obéissance personnelle qui le portaient à s'appliquer à lui-même cette déclaration de Dieu « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », se joignit un motif d'une nature plus élevée et d'une plus grande puissance. Il vit que s'il était appelé au mariage comme homme, il était aussi comme réformateur. Cela le décida. « Si ce moine se marie, disait son ami le jurisconsulte Schurf, il fera éclater de rire le monde et le diable. Il détruira l'œuvre qu'il a commencée. » Ce mot fit sur Luther une toute autre impression que celle qu'on aurait pu supposer. Braver le monde, le diable et ses ennemis, empêcher par une action propre, pensait-on, à perdre l'œuvre de la réforme, qu'on ne lui en attribue en aucune manière le succès, voilà ce qu'il désire. Aussi, relevant hardiment la tête, « Eh bien, répondit-il, je le ferai. Je jouerai ce tour au monde et au diable. Je causerai cette joie à mon père. J'épouserai Catherine. » En se mariant, Luther rompait plus complètement encore avec les institutions de la papauté. Il confirmait, par son exemple, la doctrine qu'il avait prêchée, et il encourageait les hommes timides à renoncer entièrement à leurs erreurs. Rome paraissait alors regagner çà et là une partie du terrain qu'elle avait perdu. Elle se berçait peut-être de l'espoir de la victoire. Et voilà qu'une détonation puissante porte dans ses rangs la surprise et l'effroi, et lui révèle plus pleinement encore quel est le courage de l'ennemi qu'elle pense avoir abattu. « Je veux, dit Luther, rendre témoignage à l'Évangile, non par mes paroles seulement, mais aussi par mes œuvres. Je veux, à la face de mes ennemis, qui déjà triomphent et font entendre leur jubilation, épouser une nonne, afin qu'ils sachent et qu'ils connaissent qu'ils ne m'ont pas vaincu. Je n'épouse point une femme pour vivre longtemps avec elle. Mais, voyant les peuples et les princes déchaîner contre moi leur furie, prévoyant que ma fin est proche, et qu'après ma mort on foulera de nouveau aux pieds ma doctrine, je veux, pour l'édification des faibles, laisser une éclatante confirmation de ce que j'ai enseigné ici-bas. » Le 11 juin 1525, Luther se rendit à la maison de son ami et collègue Amsdorff. Il demanda à Pomeranus, qu'il appelait par excellence le pasteur, de bénir son union. Le célèbre peintre Lucas Cranach et le docteur Jean Appel lui servirent de témoins. Mélanchthon n'était pas présent. À peine Luther fut-il marié que toute la chrétienté s'en émut. De toutes parts, on le poursuivait d'accusations et de calomnies. « C'est un inceste !» s'écriait Henri VIII. « Un moine épouse une vestale !» disaient les uns. « L'antéchrist doit naître de cette union !» disaient les autres, « car une prophétie annonce qu'il naîtra d'un moine et d'une religieuse. » À quoi Erasme répondait avec son sourire malin, « Si la prophétie est vraie, que de milliers d'antéchrists n'y a-t-il pas déjà eu dans le monde ?» Mais tandis qu'on assaillait ainsi Luther, plusieurs des hommes sages et modérés que l'Église romaine comptait dans son sein prenaient sa défense. Luther, dit Erasme, a pris pour épouse une femme de l'illustre famille Déborah, mais elle est sans dot. Un témoignage plus vénéré encore lui fut rendu. Le maître de l'Allemagne, Philippe Mélenchon, que cette démarche hardie avait d'abord épouvanté, dit de cette voix grave que ses ennemis même écoutaient avec respect, « Si l'on prétend qu'il y a eu quelque chose d'inconvenant dans le mariage de Luther, c'est un mensonge et une calomnie. Je crois qu'il a dû se faire violence pour se marier. La vie du mariage est une vie humble, mais elle est une vie sainte, s'il en est une au monde, et partout les Écritures nous la représentent comme honorable devant Dieu. » Luther fut d'abord ému en voyant fondre sur lui tant de mépris et de colère. Mélenchon redoubla d'amitié et d'égard envers lui. Et bientôt le réformateur sut voir dans l'opposition des hommes une marque de l'approbation de Dieu. « Si je ne scandalisais pas le monde, dit-il, j'aurais lieu de trembler que ce que j'ai fait ne fût pas selon Dieu. » 8 ans s'étaient écoulés depuis le moment où Luther avait attaqué les indulgences jusqu'à celui où il s'unit à Catherine de Bora. Il serait difficile d'attribuer, comme on le fait encore, son zèle contre les abus de l'Église à un désir impatient de se marier. Il avait alors 42 ans et Catherine de Bora avait déjà passé 2 années à Wittenberg. Luther fut heureux dans cette union. « Le plus grand don de Dieu, disait-il, c'est une épouse pieuse, aimable, craignant Dieu, aimant sa maison, avec laquelle on puisse vivre en paix et à qui l'on puisse se confier entièrement. » Quelques mois après son mariage, il annonça à l'un de ses amis la grossesse de Catherine. Et en effet, elle accoucha d'un fils, 1 an après leur union. Les douceurs du bonheur domestique dissipèrent bientôt les nuages que l'irritation de ses ennemis avait d'abord soulevés autour de lui.
Sacchetta,
comme il l'appelait, lui témoignait l'affection la plus tendre, le consolait quand il était abattu en lui récitant des passages de la Bible, le déchargeait de tous les soins de la vie extérieure, s'asseyait près de lui dans ses heures de loisir, brodait le portrait de son mari, lui rappelait les amis auxquels il oubliait d'écrire et l'amusait souvent par ses questions naïves. Une certaine fierté paraît avoir été dans son caractère. Aussi, Luther l'appelait-il
quelquefois
Seigneur Ketta. Il disait un jour en plaisantant que s'il avait encore à se marier, il se sculpterait en pierre une femme obéissante, car, ajoutait-il, il est impossible d'en trouver une telle en réalité. Ses lettres étaient pleines de tendresse pour Catherine. Il la nommait sa chère et gracieuse femme, sa chère et aimable Ketta. L'humeur de Luther prit plus d'enjouement dans la société de Catherine, et cette heureuse disposition d'esprit lui demeura dès lors, même au milieu des plus grandes alarmes. La corruption presque universelle des ecclésiastiques avait fait tomber le sacerdoce dans le plus grand mépris, et les vertus isolées de quelques vrais serviteurs de Dieu n'avaient pu l'en retirer. La paix domestique, la fidélité conjugale, ses fondements les plus sûrs du bonheur terrestre, étaient sans cesse troublés dans les villes et les campagnes par les passions grossières des prêtres et des moines. Personne n'était à l'abri de leurs tentatives de séduction. Ils profitaient de l'accès qu'ils avaient dans le sein des familles et même quelquefois de l'intimité du tribunal de la pénitence pour faire pénétrer dans les âmes un venin mortel et satisfaire leurs coupables penchants. La Réformation, en abolissant le célibat des prêtres, rétablit la sainteté de l'union conjugale. Le mariage des ecclésiastiques mit fin à un nombre immense de crimes cachés. Les réformateurs devinrent les modèles de leurs troupeaux dans la relation la plus intime et la plus importante de la vie. Et le peuple ne tarda pas à se réjouir de voir de nouveau les ministres de la religion, époux et pères.